Bon, donc on va commencer. Donc on a le plaisir d'accueillir Alan Sachabrin, donc qui est astrophysicien, qui travaille au CEA, au laboratoire dynamique des étoiles. Je me lis parce que je ne sais pas par cœur, et de leur environnement, voilà, du CEA. Et donc le sujet, c'est notre mystérieuse étoile, le Soleil.
Ok, ben merci beaucoup tout le monde. Vous m'entendez bien? Bon, ok, cool. Oui, voilà, donc Philippe m'a gentiment demandé de venir et je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous parler du Soleil, surtout qu'il est sympa et il nous accompagne. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est le travail que nous faisons dans mon laboratoire. Mon laboratoire s'appelle Dynamique des étoiles et leur environnement. C'est une équipe à peu près de 20 personnes, qui beaucoup de non-permanents, et ce sera un sujet de débat ici sur le recrutement en recherche, mais bon. Indépendamment de ça, nous avons des jeunes très brillants qui m'aident à faire de la recherche et c'est au sein du service d'astrophysique, du commissariat énergie atomique. Et service d'astrophysique, c'est le laboratoire, le gros institut qui est en charge de faire la physique spatiale en lien avec l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale française, le CNES, dont vous avez certainement entendu parler. Donc ici, ce que je vous montre, juste pour que vous sachiez, nous habitons donc sur la Terre, ça vous le savez tous, mais ce que vous voyez ici, c'est une représentation de la situation qui est entre la Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle l'environnement spatial de notre planète, la Terre, et c'est un sujet en plein développement, et il y aura un film dans lequel j'interviens, qui passera sur France 5 en juillet, qui s'appellera « La météo de l'espace ». Vous pourrez voir ça sur France 5 si vous regardez, où on explique justement cette nouvelle science qui est en devenir, qui s'appelle la météorologie spatiale. Et peut-être que bientôt à la télé, vous n'aurez pas que la météo du week-end, vous aurez aussi l'environnement électromagnétique de la Terre, et s'il y a des tempêtes solaires qui viennent impacter notre planète. Alors, là vous l'avez reconnu, c'est notre Soleil. La différence, c'est qu'on a aussi fait une coupe à l'intérieur où on montre qu'il y a une dynamique interne. Le Soleil, c'est une énorme boule de gaz, chaude, turbulente, active, et donc son activité a un impact direct sur notre Terre. Et ici, les lignes bleues qui ressemblent comme à une araignée vue de dessus, c'est en fait une sorte les lignes de champ magnétique de notre planète Terre. Comme vous le savez, la Terre a aussi un aimant, et aussi un aimant. Et donc, la science qui nous intéresse dans mon laboratoire, c'est de comprendre l'intérieur, l'origine de la dynamique des étoiles, et comment cette dynamique et ce magnétisme et cette activité permanente et continue du Soleil vient impacter la Terre quand on parle de notre système solaire et les exoplanètes quand on parle d'étoiles. Parce que vous savez que maintenant on a découvert plus de 2000 planètes autour d'étoiles. Et bien sûr, on évalue qu'il y en a à peu près au moins 1 milliard, peut-être même 100 milliards dans notre galaxie des planètes. C'est juste que pour l'instant, on ne les a pas encore découvertes. Mais généralement, quand on découvre une étoile et des planètes autour de cette étoile, on s'aperçoit qu'elle a souvent plusieurs planètes autour d'elle. Donc, c'est sûr, il y a plein d'étoiles et de planètes dans notre galaxie. Alors, pour revenir un peu à des bases, mais je pense que d'autres collègues que moi en ont déjà parlé, il est très important de savoir que les étoiles, dont le Soleil est la plus proche de nous, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est différente, mais s'il y a une seule chose que je veux que vous partiez comme message de cette présentation, c'est le Soleil est une étoile, c'est juste qu'on la voit de plus près. Et donc les étoiles, ce sont les briques élémentaires de l'univers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en pratique, lors de la formation de notre univers, lors du Big Bang, l'univers n'a créé que les 5 éléments les plus simples de la table de Mendeleïev, qui est la table de classification périodique des éléments, et je vous la montrerai, et l'hydrogène, qui est le plus abondant, l'hélium, le lithium, le béryllium et le bore. Au-delà, et le suivant après le bore, c'est le carbone, il n'y a que à travers les étoiles que ces éléments chimiques ont pu se créer. Donc, sans étoiles, et sans le cycle de la vie à partir des étoiles, qui permettent à partir, on peut voir les étoiles comme des chaudrons stellaires, c'est-à-dire que c'est vraiment... On prend des petits objets, l'hydrogène, et on crée des éléments plus lourds, le carbone, l'azote, l'oxygène, le silice, le fer. Au-delà du fer, comme j'y reviendrai, on peut pas faire ça dans les étoiles lors de leur vie normale, on le fait lors de leur explosion sous forme de supernova. Mais en gros, l'enrichissement naturel de notre galaxie se fait grâce aux étoiles. Donc comprendre les étoiles, c'est comprendre l'enrichissement chimique et pourquoi sur Terre Pourquoi il y a de l'or sur Terre? D'où ça vient? Ben, l'or vient des étoiles et a été créé lors de la vie des étoiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les étoiles se forment à partir de grands complexes gazeux qu'on appelle les nuages moléculaires d'hydrogène. Et ces grands complexes gazeux s'effondrent sur eux-mêmes et forment des étoiles. Alors, la phase est que, bon, il y a un grand nuage de gaz qui s'effondre, ça contracte, ça forme des espèces de nébuleuses. Et ces nébuleuses s'effondrent sur elles-mêmes et après les étoiles arrivent sur ce qu'on appelle la séquence principale. Et la séquence principale, c'est là où les étoiles brûlent leur hydrogène. 92% de la matière de l'univers est faite d'hydrogène et les étoiles sont composées principalement d'hydrogène. Et au sein de leur cœur nucléaire, on crée à partir de l'hydrogène les éléments plus lourds. Alors dans la séquence principale, on convertit l'hydrogène en hélium. Donc c'est simple, on passe du premier au deuxième élément chimique. Et juste pour vous montrer, cette séquence principale, il n'y a pas que des étoiles de type solaire, il y a des étoiles beaucoup moins massives que le Soleil. Pour être une étoile, il faut faire 8% de la masse du Soleil. Donc Jupiter, notre planète la plus grosse de notre système solaire, est 80 fois pas assez massive, parce que Jupiter fait 1/1000 de fois la masse du Soleil. Donc si Jupiter avait été un peu plus grosse, on vivrait dans un système binaire. Hein. Je reviendrai sur les systèmes binaires à la fin, ceux qui aiment bien Star Wars connaissent Tatooine, et sur la planète Tatooine, il y a deux soleils. Hein, donc, on sait que on s'est déjà projeté dans des systèmes à étoiles multiples. Et pour les étoiles de faible masse, 7% et au-delà, jusqu'à à peu près 50%, on met plusieurs centaines de millions d'années pour se les former, ces étoiles. C'est des petites étoiles qui vivent très longtemps. Et puis les étoiles, il y a des étoiles très massives. On sait que l'étoile la plus massive qu'on a découverte dans notre système, dans notre univers, fait 250 fois la masse du Soleil. On pense qu'au-delà, il y a des limites physiques qui empêchent de former des étoiles plus massives que 200 fois la masse du Soleil, mais il n'est pas dit qu'on n'en trouve pas. Hein. L'univers est tellement riche que souvent il remet en cause nos théories, donc c'est bien. Et pour le Soleil, on met à peu près 50 millions d'années pour le former. Et une fois qu'il est formé, il vit à peu près 10 milliards d'années. Alors là, je vous le montre. C'est bien quand... Voilà, il continue à tourner. Les gens ne le savent pas, mais le Soleil tourne sur lui-même. Alors tout le monde sait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, qu'elle met 365 jours pour faire le tour du Soleil. Mais ce que les gens savent très peu, c'est que le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours et fait le tour de la galaxie en 250 millions d'années. Hein ? Donc le Soleil ne reste pas immobile dans la galaxie, il se déplace dans notre galaxie, il y a des grandes ondes spirales qui parcourent notre galaxie, le Soleil se balade. Et d'ailleurs le Soleil n'est plus à côté de ses frères avec lesquels il est né. La galaxie est une mère un peu indigne, si j'ose utiliser ces mots. Ses enfants naissent, ils s'éparpillent, on ne sait plus d'où ils viennent. Et donc le Soleil, il s'est étalé, on pense, par rapport à son nuage de formation initiale, puisqu'on en est à peu près à 4,5 milliards d'années pour le Soleil. Il en est à peu près à sa 18e année, si on compte pour le Soleil, de faire le tour de la galaxie comme une année pour lui. Et donc il en a sa 18e année, et pour ça il a eu le temps de se répartir sur à peu près, on va dire, un tiers de la galaxie. Quoi. Si vous voyez la galaxie vue de dessus, il s'est étiré le long de la longitude de la galaxie sur presque un tiers par rapport à son niveau de formation. En plus de faire le tour, il y a une sorte de dérive qui fait qu'il a dérivé de pratiquement un tiers de sa position. Donc là, quand on voit ce Soleil tourner, on remarque tout de suite deux choses flagrantes. Il y a des zones brillantes et il y a des zones sombres. Alors les zones brillantes, ce sont ce qu'on appelle les régions actives. Ce sont la source principale de ce qui nous embête et qui nous envoie des choses intenses et énergétiques vers la Terre et dont je vais vous parler après. Et les zones noires, ce sont ce qu'on appelle des trous coronales. C'est l'endroit où le champ magnétique du Soleil se connecte à l'infini. Et là, du coup, il y a un vent permanent de matière qui s'échappe du Soleil. Alors, je voulais vous montrer un autre film, un satellite européen Proba, où on voit plusieurs mois d'évolution du Soleil l'année 2012, donc ça remonte à 2-3 ans. Et vous voyez comment le Soleil, en ultraviolet, est actif et en permanence a des éruptions, des boucles, des choses qui bougent et qui viennent donc forcément nous vivant autour du Soleil, et donc nous subissons ces activités. Alors, qu'est-ce qu'une étoile ? J'aime bien montrer cette image, surtout dans les fêtes foraines, où on voit vraiment le principe de base de ce qu'est une étoile. Il y a la gravité vers le bas, donc vers le centre de l'étoile, et il y a la pression qui retient cette matière qui veut tomber. Donc là, Oula, ça allait bien vite. Je pars dans le mauvais sens, là, je pense. Donc, voilà. Il y a les pressions des bras. Donc lui, il souffre. On voit qu'il fait un peu la tête. Hein, il n'est pas très content. Hein. C'est exactement ça, une étoile. C'est une sphère de gaz autogravitante qui est stratifiée. C'est plus dense au centre qu'à l'extérieur. Et là, pourquoi le Soleil est jaune ? Le Soleil est jaune parce que sa température d'émission de lumière est centrée sur le spectre du visible. Alors, si vous savez tous que il y a plusieurs gammes de lumière. On va des hautes énergies, rayons gamma, rayons X, ultraviolets, aux basses énergies, infrarouges, millimétriques, ondes radio. Et le Soleil émet dans cette zone-là. Alors, il y a des étoiles un peu bleues quand elles sont plus chaudes et plus massives. Et il y a des étoiles un peu plus froides qui sont rouges. Il n'y a pas d'étoiles violettes. Il n'y a pas d'étoiles vertes. Hein, vous le sachez. Il y a, en gros, trois gammes de couleurs d'étoiles si vous vous baladez dans la galaxie et que vous n'avez pas d'atmosphère comme sur la Terre pour faire changer les couleurs du Soleil quand il passe, quand il se couche. Pourquoi le Soleil rougit quand il se couche ? C'est qu'il y a plus de profondeur d'atmosphère à traverser pour la lumière du Soleil. Et comme la diffraction de l'atmosphère diffracte plus le rouge que le bleu que le rouge, le temps que le rayon du Soleil arrive jusqu'à votre œil, la partie bleu a été plus enlevé que la partie rouge, et donc quand le Soleil bascule vers l'horizon, plus d'atmosphère, il a tendance à rougir. C'est pour ça qu'il rougit, le Soleil. Mais le Soleil est rouge et a ses changements de couleur parce qu'on a une atmosphère et que sa lumière interagit. Mais si on sort de l'atmosphère de la Terre et qu'on se balade dans l'espace et qu'on regarde les étoiles, le Soleil n'apparaît pas jaune dans l'espace, il paraît blanchâtre, aux entours du blanc. Parce que son pic de lumière, vous avez certainement tous dû faire le jeu au Palais de la Découverte ou ailleurs, de prendre une toupie avec des quartiers de couleurs de l'arc-en-ciel, et vous faites tourner la toupie, et la couleur résultante, c'est le blanc. Et ça surprend tout le monde. Hein, c'est le même principe. Comme le Soleil, il est vraiment centré au milieu du spectre visible qui va du rouge au bleu, il a tendance à être blanc, blanchâtre. Les étoiles qui sont plutôt chaudes et qui émettent plutôt dans l'ultraviolet, leur maximum de sortie de lumière est le bleu, donc elles ont tendance à être plutôt dans le bleu. Et les étoiles qui sont plutôt faibles, peu chaudes, elles sont plutôt rouges, elles émettent dans l'infrarouge, et leur maximum d'intensité de sortie du spectre visible, c'est le rouge. Donc elles ont tendance à être plutôt rouges. Voilà. Mais c'est des couleurs finalement pas aussi vives que ce qu'on s'attendrait à avoir. Mais c'est quand même très bien. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le Soleil est chaud. Et comme il est chaud, son gaz n'est pas neutre, son gaz est ionisé, c'est-à-dire que les électrons sont libres de circuler, et le fait qu'il soit conducteur, ça le rend conducteur au courant électrique. Et c'est parce que le Soleil est une sorte de gros électro-aimant qu'il génère des courants en permanence, et il génère des courants, comme on va le voir, qui sont avec une certaine fréquence, et cette fréquence, cette période, c'est 11 ans. Et donc l'activité du Soleil, parce qu'il crée des courants qui sont alternatifs et non pas continus. Hein, vous avez tous chez vous des prises en courant 220 volts avec une fréquence de 50 Hz. Bon ben voilà, le Soleil lui génère des courants avec un voltage différent et une fréquence différente. Mais c'est le même principe, il crée des courants et ces courants électriques se renversent et régénèrent du champ magnétique différemment. Alors, le Soleil est très visible, émet beaucoup de lumière, et pour pouvoir émettre cette lumière longtemps, il faut une source d'énergie, et on verra pourquoi, d'où est la source d'énergie du Soleil qui est liée aux réactions nucléaires. Alors là, c'est pour vous montrer le corps noir, donc l'émission du Soleil, qui est principalement centrée sur le jaune. Alors ça, c'est la courbe théorique simplifiée en noir, et là, c'est le spectre du Soleil qui émet normalement. Et vous voyez que quand on est sur Terre, c'est la partie rouge là, il y a des fenêtres d'absorption. L'atmosphère absorbe le rayonnement du Soleil, et heureusement qu'il le fait par exemple dans l'ultraviolet, parce que s'il ne filtrait pas l'ultraviolet, on aurait des cancers de la peau très rapidement. Il faudrait se couvrir en permanence. Donc c'est illustré ici. Donc là, c'est 10 km d'altitude, c'est en fonction de l'atmosphère, de la hauteur de l'atmosphère de la Terre. Là, on est à 70 km, mais l'atmosphère de la Terre, ce qu'on appelle l'exosphère, s'étend à peu près à 1500 km. Et après, il y a la magnétosphère qui est un peu plus loin. Et on a ici l'ultraviolet A, qui est le moins intense des UV, qui arrive jusqu'au sol, comme vous voyez. Un tout petit peu d'UVB qui arrive, et l'UVC qui est bloqué à très haute altitude. Heureusement pour nous, parce que c'est des rayonnements très très dangereux, et le fait qu'il y ait déjà un peu d'UVB qui arrive, il n'est pas très bon pour nous. Alors maintenant, je fais un zoom sur le Soleil, et le Soleil, c'est donc, comme je disais, une grosse boule de gaz. Alors la taille du Soleil, c'est à peu près 110 fois le rayon de la Terre, ça fait 700 000 km de rayon, la Terre fait à peu près 6300 km, c'est 110 fois le rayon de la Terre à peu près, donc le volume, puisque c'est au cube, ça fait 1 million de fois. Hein. Donc le Soleil est 1 million de fois plus volumineux que la Terre, pour vous donner une idée. Et on voit ici plusieurs choses. On voit que le Soleil a une zone interne très dont la lumière, l'énergie est transportée par les photons. Donc là, vous voyez tous, hein, quand vous bronzez, vous sentez bien que la chaleur, les rayons lumineux vous chauffent. Hein. Donc on comprend bien que la lumière peut transporter la chaleur. Par contre, ce qui se passe, c'est que à peu près aux deux tiers du Soleil, quand on part du centre et qu'on va vers les deux tiers extérieurs, là, il y a un jeu subtil, hein, c'est un gaz, hein, et ce gaz est plus ou moins transparent selon les rayonnements que vous lui appliquez. Donc vous voyez bien que votre bras, quand vous le regardez vous avec vos yeux dans la longueur d'onde visible, vous voyez pas vos os. Pourtant quand vous allez à l'hôpital et que vous faites regarder vos bras en rayon X, on voit vos os. Donc on voit bien que la matière, et notre peau par exemple, notre peau est opaque au rayon lumineux, visible, mais elle est transparente au rayon X. Donc il y a des notions d'opacité, de transparence. Et bien c'est pareil à l'intérieur du Soleil. Le Soleil est, selon la profondeur à laquelle on est, selon la densité de matière et selon la température de la matière qui le compose, il est plus ou moins opaque à certaines longueurs d'onde. Et donc du coup, il s'avère que au centre du Soleil, le Soleil génère de la lumière au rayon X, et cette lumière au rayon X, à force de transporter la chaleur et à se balader et à interagir avec les atomes d'hydrogène du Soleil, finissent par se dégrader, petit à petit, elles perdent de l'énergie, jusqu'à arriver à peu près au visible, hein, donc passer des rayons X au visible, donc on a perdu de l'énergie. Et ici, à la base de la zone convective, on est très opaque à la lumière, au pic de lumière du Soleil. Et donc du coup, la chaleur devient bloquée, elle se bloque comme ça, et elle finit par localement perturber la structure thermique du Soleil, et elle déclenche des mouvements de matière. Ces mouvements de matière s'appellent la convection, parce que du coup le rayonnement est bloqué et il faut qu'on puisse transporter l'énergie, et l'énergie se transporte par des mouvements convectifs, des gros rouleaux, des gros mouvements de convection qui se déplacent. Donc ce qu'on peut dire aussi du Soleil, c'est qu'il fait à peu près 300 000 fois la masse de la Terre, qu'il fait 150 grammes au centre, donc si vous prenez une bouteille d'un litre, elle ferait 150 kilos, hein, donc vous voyez c'est très très lourd, très très dense. Par contre à la surface, la densité est très 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 faible. Et en moyenne, le Soleil fait, toute sa densité, qu'on ne regarde pas la valeur max à l'intérieur, la valeur min à l'extérieur, mais qu'on fait la moyenne, le Soleil fait à peu près la densité d'une eau très salée. Hein, mais bon, on aurait trouvé un océan, une mer morte qui ferait quelques millions de kilomètres, et qu'en posant le Soleil dessus, l'eau ne s'évapore pas, on pourrait presque voir le Soleil flotter. Bon, enfin bon, bien sûr, tout ça, c'est la science-fiction, c'est pas possible. Donc du coup, la question qu'on doit se poser, c'est qu'on sait que le Soleil a déjà vécu 4,5 milliards d'années, ça on le sait comment, parce qu'on a fait la datation au carbone 14 des roches sur Terre, et aussi on a relevé des échantillons sur la Lune, et on sait que l'âge de la Lune est très proche de celui de la Terre, donc du coup on sait que ces deux objets étaient présents il y a très longtemps, et donc il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui permet au Soleil de briller. Alors, au moins 4 milliards d'années, et je vous le dis tout de suite, le Soleil vit 10 milliards d'années, donc il y a encore à peu près 5,5 milliards d'années pour le Soleil pour vivre. Vous inquiétez pas, dans 3 milliards d'années, on se prend la galaxie Andromède hein, dans le visage, donc on va avoir déjà des interactions de galaxies entre nous, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le Soleil. Le Soleil va peut-être être catapulté très très loin sur une queue de marée de la collision des galaxies, mais bon, Nous, on sera attaché à notre soleil et on fera bien ce que fera le soleil, on le suivra. Mais disons que dans 10 milliards d'années, a priori, lui, il va commencer à dire « je m'arrête là, j'ai besoin de prendre ma retraite ». Voilà, hein, tout le monde y a droit, il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas. Donc, qu'est-ce que c'est la source d'énergie ? Eh bien, la source d'énergie, c'est les réactions nucléaires. Et il faut savoir que le soleil brûle 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. 600 millions. 1200 millions. 1800 millions, voilà. Hein, ça, il brûle beaucoup de matière. Hein. Et pourquoi il fait ça ? C'est grâce à E égale MC2, la fameuse formule d'Einstein, qui est que énergie égale matière, matière égale énergie. Et parce que 4 protons, 4, les protons, c'est les noyaux des atomes d'hydrogène, et comme 4 protons pèsent plus lourd que le noyau d'un atome d'hélium qui est fait de 2 protons et de 2 neutrons, mais qui ont une énergie de liaison, et donc quand on prend 4 protons indépendamment et qu'on les pèse, et qu'après on prend un noyau d'hélium, neutrons, 2 neutrons, 2 protons, et qu'on le pèse, ben, il y a une différence d'énergie. Et cette différence d'énergie, c'est le delta qui vient de E égale MC2, elle est disponible et c'est ce qui nous permet de chauffer le gaz, donc d'avoir de la pression et donc de maintenir l'étoile contre son effondrement. Donc c'est tout, donc la source fondamentale, pourquoi il fait chaud sur Terre ? Parce qu'il y a de la gravité. La gravité confine le plasma de l'étoile, en fait une sphère de gaz autogravitante. Au centre, les températures commencent à être suffisamment chaudes, 15 millions de degrés, pour que les réactions nucléaires se déclenchent. Mais s'il n'y avait pas la gravité, il n'y aurait pas les réactions nucléaires. Donc en fait, la source de chaleur sur Terre, c'est la gravité qui confine le Soleil. C'est intéressant de faire les liens énergétiques. Donc voilà, peu importe, il y a des choses qui sont... Alors, bien évidemment, avant qu'on découvre ça dans les années 30, 1930, les gens avaient quoi à leur disposition ? Donc à la fin du 19e siècle, les gens se disaient, bon, peut-être que le soleil est fait de charbon, parce qu'à l'époque, on avait des machines à vapeur. Hein. Donc vous prenez la masse du soleil, vous la convertissez en charbon, vous calculez le rendement du charbon. Vous faites le calcul, mais le soleil serait capable de briller à la lumière où il brille pendant 20 000 ans, avec le charbon, tellement c'est inefficace le charbon. Alors maintenant, vous pouvez vous dire, bon, ben, il y a peut-être une autre façon. On a dit que le soleil était une sphère de gravité, donc peut-être que si on concentre de plus en plus, qu'on transforme son énergie de gravitation, qu'on appelle potentiel pour ceux qui ont fait un peu de physique, d'énergie potentielle en énergie de mouvement, énergie cinétique, d'agitation des atomes, si on convertit ça, combien de temps le soleil vit ? Si on convertit son énergie de gravité en énergie de mouvement, 25 millions d'années. Et donc, on n'est pas encore bon à cause de la datation des pierres sur la Terre et sur la Lune. Donc, avec la source d'énergie, ça a été découvert dans les années 30, à peu près. Donc, ça fait même pas un siècle qu'on sait quelle est la source d'énergie des étoiles. Et bien sûr, après, on a pu les étudier en détail. Et c'est une des raisons pour laquelle au CER s'intéresse au Soleil, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Soleil, c'est un réacteur de fusion, comme ITER qu'on est en train d'essayer de construire à Cadarache, c'est pas un réacteur de fission comme on a actuellement avec l'EPR ou les autres réacteurs qu'on a en France. Hein. Alors la fission c'est quoi ? C'est on prend des gros, l'uranium, on le casse, on fait des petits, il reste du césium, et là, comme les deux atomes de césium pèsent moins que l'atome d'uranium, et ben on a gagné de l'énergie. Et la fusion c'est quoi ? On prend des petits, des hydrogènes, et on crée des gros, des héliums. On prend trois héliums, on crée du carbone. Et ça, c'est la fusion. Et il se passe un truc, c'est que la fusion et la fission se rejoignent au niveau du fer, l'élément du fer. Il n'y a rien de plus dense qu'un noyau d'atomes de fer. Il est tellement dense que le noyau de fer, on peut ni le fusionner, ni le fissionner, parce que ça ne donne pas d'énergie. La seule façon de le faire, c'est de perdre de l'énergie. Alors ça, c'est bien quand c'est une étoile qui explose, quand on voit des chocs dans l'espace, et donc elle prend les atomes, elle les compresse, elle leur envoie des neutrons, elle fait ce qu'on appelle de la spallation, c'est-à-dire de l'enrichissement par neutrons des éléments. Donc, dans des chocs d'explosion d'étoiles, on arrive à créer les éléments au-dessus du fer grâce à ça. Mais sinon, on ne peut pas. Donc dans les étoiles, par la fusion, lors de leur évolution, on part de l'hydrogène, on arrive au fer, et là, ça bloque. On ne peut pas aller au-delà. Et pas toutes les étoiles arrivent à le faire. Alors le Soleil, ce n'est pas une très grosse étoile, c'est une étoile, vous savez, on vit en banlieue de la galaxie. Alors, on est à peu près à 2/3 à l'extérieur, il y a très peu d'étoiles autour de nous, une petite étoile d'une masse solaire. Comme je vous l'ai dit, on en a beaucoup des étoiles comme nous, mais on n'est ni les plus nombreuses, ni les plus massives, mais c'est notre étoile, on l'aime beaucoup. Je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Mais C'est n'empêche que c'est une étoile qui n'est pas suffisamment massive pour pouvoir créer du fer. Elle s'arrête, elle échoue à la création du... elle n'arrive pas à créer le carbone, en fait. Elle crée l'hélium, elle devient une étoile d'hélium à un moment, mais elle ne va pas au-delà. Et donc, du coup, elle crée ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire que sa mort, qu'est-ce qui se passe ? Elle crée son hydrogène, l'hydrogène, elle le brûle, elle crée l'hélium. On a un cœur d'hélium, et ce cœur d'hélium, il doit, pour brûler, la température centrale du Soleil doit atteindre 100 millions de degrés. Et donc, on commence à brûler l'hélium, quand l'étoile se contracte, l'enveloppe se dilate, ça devient une géante rouge, le Soleil, et son enveloppe va croître au moins jusqu'à notre orbite de la Terre. Donc, ça devient une grosse boule de gaz, et avec un cœur très dense. Et ce cœur d'hélium, on va arriver à atteindre les 100 millions de degrés pour le Soleil, et il va commencer à se fusionner et donner du carbone. Mais pour brûler le carbone, il faut atteindre 1 milliard de degrés. Et on n'arrive pas à atteindre cette température avec le Soleil. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on se retrouve avec un cœur de carbone, avec un peu d'oxygène et d'azote. Et du coup, l'enveloppe d'hydrogène très étendue qui arrivait jusqu'à la surface, à peu près jusqu'à l'orbite de la Terre, est diffusée dans l'espace. Et on se retrouve avec un objet qui fait à peu près la taille de la Terre, 10 000 km, qui est composé de carbone. Et c'est comme une sorte de cristal de diamant. Alors moi, je dis souvent aux femmes, dites pas à votre homme d'aller vous chercher la Lune, dites-lui d'aller vous chercher une naine blanche. C'est un diamant stellaire de milliards, de gigamilliards de carats. On ne peut pas faire mieux. Hein. Tu vois là, même un émir de Qatar ne peut pas se l'acheter. Donc, forcément, pour les étoiles qui sont un peu plus massives que le Soleil, celles qui sont au-delà de 9 masses solaires, eh ben eux, ils arrivent à atteindre 1 milliard de degrés au centre, ils commencent à brûler le carbone, puis après le silicium, puis après le magnésium, enfin toute une séquence jusqu'au fer, et là ça s'arrête, le fer on peut plus rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces étoiles massives ? Eh ben ces étoiles massives meurent de façon cataclysmique, vous avez tous entendu parler du mot supernova. Et donc là, il y a un onde de choc qui se crée à l'intérieur du cœur, qui rebondit, qui repart, qui souffle toute l'enveloppe, mais de façon beaucoup plus violente que pour la fin des morts des étoiles de faible masse comme le Soleil. Là, de façon cataclysmique, c'est tellement cataclysmique une supernova, pour vous donner une idée, que quand il y en a une qui arrive, il y en a à peu près une tous les siècles dans les galaxies en moyenne, quand il y en a une qui arrive dans une galaxie, eh ben, elle est aussi brillante que le cœur de la galaxie. Alors que le cœur d'une galaxie, c'est peut-être composé de millions d'étoiles. Donc j'en arrive à revenir sur le Soleil, notre étoile qu'on aime beaucoup. Comme vous le voyez à la surface, c'est ce film qui tourne depuis un certain temps, ça bouge à la surface. C'est la convection dont je vous parlais tout à l'heure, cette turbulence permanente. Et cette turbulence, là, elle fait à peu près, chaque petit granule ici, fait à peu près 1000 km la taille de la France. Et donc le Soleil est recouvert de ces petits motifs convectifs sur toute sa surface. Et vous voyez qu'il y a des structures beaucoup plus grandes et des structures beaucoup plus petites. Et c'est cette... dans ce chaos permanent, il y a un certain ordre qui se crée. Et c'est ça que j'essaie de comprendre en tant que chercheur. Donc ici, vous voyez une simulation numérique que nous avons fait au laboratoire où on essaie de comprendre les mouvements de la matière et la rotation du Soleil, parce que le Soleil tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle, et j'y reviendrai dessus. Mais pour mieux comprendre comment ça fonctionne, on a une science qui s'appelle... on va voir si ça marche. Hein, finalement, je l'ai bien... On a ce qu'on appelle l'héliosismologie. Nous pouvons sonder l'intérieur des étoiles et c'est une science qui a révolutionné notre compréhension des étoiles. Donc si ça marche, vous devriez entendre quelque chose. Non. J'ai pas l'hélium. Alors, ah ouais. Si ça devrait marcher, alors est-ce qu'il est là, Philippe ? Voilà, attends, je vais mettre ça à côté. Donc, tout ce que je voulais vous faire montrer ici, c'est la différence qu'il y a entre une. Vous avez vu, il y en a une qui sonne plus grave que l'autre. Donc, on sait qu'avec le son, on peut faire la différence entre des gros et des petits objets. Okay.
On voit qu'avec le son, on peut faire la différence entre du bois et du métal. Donc on peut faire la différence sur la composition.
Bonne voiture française.
Et un foufou américain. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le son ? Quand la voiture était statique, on entendait un son normal. Et quand on est quand on fait...
On entend l'effet Doppler. Vous voyez ? Le son... Vous avez vu que le son changeait quand il y avait du déplacement. Donc grâce au son, on peut trouver la dynamique interne des étoiles. Donc, par l'analyse fine dans notre travail quotidien du son des étoiles, on est capable de comprendre leur taille, leur composition et s'il y a des mouvements à l'intérieur. Et donc, c'est une technique très puissante qu'utilisent nos collègues sismologues quand ils sondent le sol de la Terre. Ils font des explosions, ils mettent des détecteurs un peu plus loin et puis ils regardent le temps de propagation des rayons de son. Et quand ils les détectent un peu plus loin, ils arrivent à reconstruire parce que plus l'arc est long, plus il va profondément. Et donc, si vous faites des petits arcs, vous êtes proche, vous n'allez pas très... Vous testez les strates proches. Si vous mettez votre détecteur loin, le schéma fait ça, ou il peut faire plusieurs rebonds. Et donc, en analysant celles qui font plusieurs rebonds, de celles qui font des grands rebonds comme ça, on arrive à sonder les différentes strates de l'intérieur de la Terre. Et bien, nous, on fait pareil avec les étoiles. Alors, bien sûr, comme je le dis souvent, dans l'espace, quand on meurt en criant, personne ne nous entend. Parce que le son ne se déplace pas dans l'espace, hein. Le son a besoin de support, d'atmosphère. Si vous m'entendez, c'est parce qu'il y a de l'air. Si je parlais dans le vide, ben je mourrais. Bon, d'accord, mais admettons que je puisse respirer dans le vide, vous ne m'entendriez pas parler. Hein. Donc, il y a un problème. Mais donc, du coup, on est dans une situation où, avec le son, on peut faire beaucoup de choses. Alors, comment on entend le son des étoiles ? Eh bien, on l'entend parce qu'en fait, ces ondes viennent légèrement perturber la lumière du soleil. Et ces toutes petites perturbations de la lumière du soleil, quand on fait des analyses de signal très fines, on arrive à les sortir. Et on les analyse, et elles nous apprennent comment le soleil est fait. Et donc voilà un peu des exemples de rayons. Donc on a des ondes acoustiques dans le soleil, avec différents types de rayons qui vont plus ou moins au centre du soleil. Et puis on a d'autres types d'ondes, avec des ondes qu'on appelle de gravité. Ça, c'est des ondes acoustiques, c'est des ondes de gravité. Les ondes de gravité, c'est comme vous pouvez voir ça comme des vagues, ou quand vous essayez de pousser, si vous êtes dans votre bain, vous essayez de pousser sur la surface de l'eau. Oh, vous voyez là ? C'est pas pareil que la compression où on ferait ça. Là, une onde acoustique, on aurait tendance à la pousser comme ça, quoi, pour que ça se compresse. Et une onde de gravité, c'est plus perpendiculaire à la perturbation, et ça fait des oscillations comme ça. Donc, il y a deux types d'ondes. Alors dans le cœur, c'est 500 km par seconde, je rappelle que c'est 340 mètres par seconde dans l'air, 200 km à la base de la zone convective et 7 km à la surface. Donc un rayon acoustique dans le soleil met à peu près une heure pour le parcourir. Et il va et il revient. Alors qu'est-ce que ça nous a permis de détecter ? Ben voilà le spectre des ondes acoustiques du soleil. Donc là, c'est le soleil. Comme c'est une grosse cavité résonante, un super, super baryton, le soleil est très, très, très grave. Vraiment, il vibre de façon très grave. Et là, on a un spectre discret de son. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre la belle musique et le bruit ? Le bruit, c'est que toutes les fréquences sont remplies, donc il n'y a pas de choses qui sortent. Vous savez que dans les pianos, pour aller d'une octave à l'autre octave, on double la fréquence, hein. Le la de base qu'on a tous sur nos métronomes, c'est 440 Hz. Hein. Donc vous savez que le la du dessus, il est à 880 Hz, et le la d'en dessous, il est à 220 Hz. Hein. Donc voilà, il y a des doublons de fréquences. Et les fréquences et les harmoniques des sons, des guitares et des pianos, sont des multiples les unes des autres. Ça fait que à chaque fois, ça retombe de façon harmonieuse. Et ça remplit pas tout le gamme de fréquences. Par contre, maintenant, vous prenez une batterie avec un cercle sphérique, circulaire. Là, les ondes, les fonctions se reproduisent pas bien les unes des autres. Les harmoniques d'une frappe ne sont pas les harmoniques des autres. Ça fait que ça se remet pas bien. et ça a tendance à faire un son beaucoup plus plein, beaucoup plus kch, qu'un son ting, beaucoup plus remarqué. Alors qu'est-ce qu'on a pu, grâce aux ondes acoustiques et à l'effet Doppler, on a pu voir que le Soleil tournait vite à la surface et plus lentement au pôle, et que dans son cœur radiatif, où c'est les photons qui transportent l'énergie, il tournait de façon solide en bloc. Et il fallait donc expliquer ça. Donc on a fait des simulations numériques, et ici je vous montre une première mondiale qu'on a publiée l'année dernière. On est premier au seul au monde à faire cette simulation complète du Soleil à 3 dimensions pour prendre en compte tous les effets. Donc là, vous allez voir les mouvements de cisaillement. Le Soleil tourne plus vite. Si le Soleil est un manège, il fait 4 fois le tour du Soleil à l'équateur et seulement 3 tours au pôle. Donc vous doubliez votre copain tous les 3 tours. Et donc là, on voit les mouvements et je bascule la sphère. Hein, c'est les simulations numériques qu'on a fait, la visualisation. Et là, maintenant, on voit l'intérieur du Soleil. Et vous voyez qu'ici, c'est la zone de convection. Il y a des mouvements. Et puis là, il y a plein d'ondes qui se propagent. Et si vous regardez bien, vous avez l'impression que les fronts d'ondes, ils vont vers l'extérieur. Et donc, c'est ces phénomènes-là. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans le Soleil? Le Soleil, c'est comme ça. C'est très turbulent à la surface. Et au moment, à la base de la zone convective, à peu près à 200 000 km de profondeur, il y a une zone très stable et il y a plein d'ondes qui sont excitées en permanence. Et nous, on essaie de les détecter, celles-là. On va détecter certaines, mais pas toutes. Alors, comme je le disais, le Soleil ne fait pas que convecter, être turbulent. Le Soleil a aussi un cycle d'activité. Et le Soleil a un cycle généralement qui fait à peu près 11 ans. Là, on vient juste de passer le maximum du cycle 24. C'était à peu près en octobre 2014, il y a quelques mois qu'on a passé le cycle. Il y a eu des grosses tempêtes récemment, vous avez peut-être entendu parler. En mars, il y a eu une très grosse tempête qui est venue impacter la Terre. Et donc, c'est ça la météorologie de l'espace, c'est comprendre. Donc là, vous les voyez, ces tempêtes. Vous en voyez la pouf, paf, pif, ça part dans tous les sens. Alors bien sûr, la chance qu'on a, c'est qu'un volume autour d'une sphère, c'est assez grand. Surtout quand le rayon pour aller à la Terre, ça fait 150 millions de kilomètres. Donc on a une espèce de gros volume de rayons de diamètre 300 millions de kilomètres. Voyez, et donc quand le Soleil envoie des choses là-dedans, il a de l'espace. Hein. Donc ça ne nous vient pas toujours dessus. Ce n'est pas toujours ce qu'on appelle géo-effectif. C'est-à-dire que l'activité solaire n'a pas toujours un impact sur la Terre. N'est pas toujours géo-effective. Mais quand ça l'est, ça peut être catastrophique. Alors ce qui est très remarquable, c'est que le Soleil, vous voyez, quand il est calme, c'est un disque... il n'y a rien. Et puis parfois il nous fait des poussées de taches de rousseur. Et une petite tache de rousseur qui lui vient, c'est l'été, il bronze un peu trop et un peu des poussées de taches de rousseur qui lui montent. Mais je plaisante bien sûr. Et donc c'est ces taches solaires qui sont clés de cette activité magnétique et de ces éruptions importantes. Donc comme je l'ai dit, le Soleil est un électroaimant. Qu'est-ce qu'un électroaimant? Alors vous avez tous joué avec des aimants sur vos frigidaires. Et c'est des aimants permanents. Là, leur magnétisation est permanente. Mais vous avez une autre façon de faire. Je vous conseille d'essayer de le faire chez vous une fois. Vous prenez une pile de 9 volts et vous la connectez, ou une de 4 volts 5, peu importe, enfin une pile. Vous connectez un fil de cuivre d'un côté à l'autre et vous entourez autour ce fil autour d'un barreau de fer. Donc on fait exactement ce setup. Prenez un barreau de fer métallique, vous entourez du cuivre autour, vous branchez le fil électrique à une batterie. Et ce champ, il va y avoir création de champ magnétique, parce que les courants induisent du champ magnétique. Et donc du coup, on va avoir un champ magnétique qui va être créé. Ici, vous avez peut-être déjà joué avec de la limaille de fer, vous avez déjà mis de la limaille de fer sur des aimants. Vous voyez que cette limaille de fer s'oriente le long des lignes de champ magnétique, partant d'une pôle nord allant au pôle sud. Et bien les planètes, comme la Terre, les étoiles, comme le Soleil, sont des électroaimants. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des mouvements de matière, et il y a conversion de ces mouvements de matière en mouvement, en énergie électrique. Donc voilà le cycle d'activité du Soleil vu en rayon X. Si nous avions des rayons, si nous pouvions voir avec des yeux en rayon X, ce seraient des tout petits yeux, ce seraient des tout petits êtres qui voyaient des toutes petites petites longueurs d'onde, très haute énergie, des petites longueurs d'onde, on pourrait voir en rayon X, ben on saurait que le cycle a 11 ans. On le voit pas, pourquoi? Parce que le Soleil, on a des yeux qui voient dans le visible. Bon, c'est normal, hein, on s'est certainement adapté à notre étoile. Et dans le visible, la variation du cycle de 11 ans n'est que de 0,1%. Donc on s'en aperçoit pas. Mais en X, il est d'un facteur 100. Donc on aurait des soleils très lumineux en X parfois et un soleil très peu lumineux en X parfois. Et ça, on se serait rendu compte. Mais comme on n'a pas des yeux en X, il a fallu envoyer des satellites dans l'espace pour s'en rendre compte. Donc voilà la séquence. Vous voyez que là, il est très sombre et là, il est très brillant. Alors bien sûr, ça a un impact sur la Terre et sur le climat de la Terre. Donc je vous montre ici, en fonction de la fréquence, l'infrarouge, le visible, dont le ciel est principalement piqué pour notre vue, les ultraviolets, qui nous font bronzer, mais il ne faut pas aller trop loin, parce que les extrêmes ultraviolets, on se crame. Et là, on est à la transition entre les rayons X et les ultraviolets. Et ça, c'est le spectre solaire. Et ici, concentrez-vous seulement sur ce panneau, on voit les variations au cours du cycle. Et on voit qu'en fonction de la longueur d'onde, la variation atteint 200% quand on est dans les hautes fréquences énergie, comme dans les hautes énergies, les basses fréquences. Mais par contre, quand on est tout intégré, quand on intègre la totalité du spectre, vu que vous voyez ici, c'est quand même une échelle en logarithme, en puissance de 10, ça c'est quand même beaucoup plus intense au total, et donc en cumulé, on voit peu de variations. C'est pour ça qu'on ne la voit pas, la variation en visible. Mais elle est très forte. Et sauf que l'ultraviolet, c'est ça qui détruit l'ozone. Et c'est ça qui a un impact direct sur l'atmosphère terrestre et qui peut directement chauffer notre atmosphère. Parce que comme vous l'avez vu, il a absorbé l'ultraviolet à haute atmosphère. Donc ça fait un dépôt direct d'énergie. Donc si le Soleil, dans son cycle de 11 ans, a une forte variation d'ultraviolet, ça a un impact direct sur son dépôt d'énergie dans notre atmosphère. Alors je vous rassure, je ne suis pas en train de dire que le Soleil est la cause du réchauffement climatique. Il n'en est pas la cause, je peux même vous dire l'inverse. Il contribue avec le volcanisme à peut-être 20%, 20-25%. 75%, c'est notre mode de vie qui est trop consumériste pour pouvoir assurer notre planète. Donc voilà ce qui se passe, ces fameuses tâches actives. Ici, vous avez une carte qui fait 60 000 km sur 60 000 km. D'accord ? Chaque rond, c'est de nouveau, je vous rappelle, un granule qui fait la taille de la France. Vous voyez que des régions actives peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres, jusqu'à 30 000 km, donc on peut mettre plusieurs planètes Terre là-dedans, voire un gros Jupiter, un Jupiter. Hein. Ça, c'est à peu près la taille de Jupiter ici. Donc on voit qu'on a des concentrations de champs magnétiques phénoménales dans le Soleil. Des structures qui font des dizaines de milliers de kilomètres avec des champs magnétiques super intenses. Et les voilà en mouvement. Et ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que les taches solaires du Soleil se propagent sur le cycle de 11 ans dont je vous ai parlé, vers l'équateur, et crée ce diagramme qu'on appelle le diagramme papillon, parce qu'on a l'impression que c'est des ailes de papillon vues dessus. D'accord ? Il faut avoir un peu d'imagination, on voit comme deux ailes là. Et là, c'est le cycle actuel, vous voyez, bon, on est à peu près en 2012, on a continué un petit peu. Et donc, l'activité solaire est composée de deux effets. Un effet sel-poivre avec plein de petits objets magnétiques qui se baladent sur toute la surface du Soleil, et une bande d'activité très intense qui migre vers l'équateur tous les 11 ans. Alors voilà un film qui l'illustre, vous allez mieux vous rendre compte. Regardez, dans l'hémisphère nord, on est jaune devant et bleu derrière, et dans l'hémisphère sud, on est bleu devant et jaune derrière. Ça me rappelle une blague de Coluche, ça, mais... mais voilà, donc on voit les choses évoluer, et donc vous voyez que ça migre vers l'équateur et que d'un coup c'est calme, il n'y a plus de taches. Et puis ça repart, et vous voyez que l'hémisphère nord, maintenant c'est le bleu qui est devant. Et ça va se renverser, passer par un minimum. Et maintenant, c'est de nouveau le jaune qui est devant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cet électro-aimant qui est le Soleil, c'est pas le Soleil en entier qui s'est renversé. Bien évidemment, il faudrait des forces colossales pour faire ça. C'est pas le Soleil en entier qui s'est renversé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ces courants électriques. Les courants électriques étaient dans un sens, et après 11 ans, ils se sont mis à tourner dans l'autre sens. D'accord ? Et donc, le champ magnétique qu'ils induisent était comme ça dans un cas, et puis après, il est devenu comme ça dans l'autre. Et pour faire un cycle, il faut deux renversements. Donc on était comme ça, on est passé comme ça, et puis on est revenu comme ça. Voilà. Et ça, il le fait au bout de 22 ans. Donc un cycle complet du Soleil, c'est 22 ans, mais il est composé de deux cycles de 11 ans, où on a une augmentation des tâches, puis une diminution, renversement des pôles magnétiques. Donc si vous viviez sur le Soleil, si vous aviez une super armure en adamantium comme Wolverine, et vous étiez capable de marcher sur le Soleil comme ça, non, ça serait difficile, mais quand même... J'y arriverai peut-être difficilement, faut être très très fort. Hulk peut-être, hein. Hulk fait d'adamantium, voilà. Alors là, vous pourriez marcher sur le Soleil peut-être, et vous apercevriez que avec votre boussole, vous dites, j'aimerais bien savoir où est mon nord, quoi. Avec votre boussole, mais d'un coup, hop, d'un coup, faudrait aller dans le sud. Hein, et ça se renverserait complètement. Hein. Bon, c'est pas la réalité. Hein. Enfin, c'est la réalité que le champ magnétique se retourne pas, qu'il y a des Hulk d'adamantium. Hein. Rentrez pas à la maison avec ça. Donc on a l'enregistrement de l'activité solaire a commencé à l'époque de Galilée, au début du XVIIe siècle, parce que c'est le premier, il est dans la cour de Hollande, il y a un des princes, je suis pas un grand historien, mais il y avait la personne dirigeante de l'époque qui aimait bien dans la cour avoir une mini longue vue pour regarder un peu les gens qui venaient à sa cour, pouvoir les voir de loin, assis sur son trône et regarder. Donc les longues vues existaient déjà, il y avait déjà un peu des systèmes optiques, mais personne n'avait eu l'idée de les prendre et de les pointer vers le ciel. Et donc Galilée, c'est ce qu'il a fait à partir de ses notions de verre poli, de longue vue et compagnie, a pensé à les pointer vers le ciel. Donc il a découvert quoi ? Deux choses importantes, que le soleil avait des taches, et il a découvert qu'il y avait des objets qui tournaient autour de Jupiter, les fameux satellites galiléens, Callisto, Ganymède, Europa et Io. Hein. Et donc, à partir de cette époque-là, on a commencé à faire des enregistrements solaires. Donc, on a à peu près 400 ans d'enregistrement d'activités scientifiques sur le Soleil, sur les taches. Et il n'a pas eu de chance, Galilée, enfin, ses collègues de l'époque, ils n'ont pas eu de chance parce que le Soleil a été au début actif. Il a eu beaucoup de tâches à l'époque où ils ont commencé à l'observer et très vite il est rentré dans un minimum d'activité, ce qu'on appelle des grands minimums d'activité où il n'y avait quasiment pas de tâches. Donc ça vous pouvez être pris pour des fous, j'ai vu des tâches sur le soleil, puis vous arrivez, puis il n'y a plus de tâches. Hein. Donc quand on est, d'ailleurs quand on est physicien solaire comme moi et qu'on va dans les écoles pour montrer un peu l'activité du soleil, quand on est en minimum d'activité, c'est moins intéressant parce qu'on montre un disque tout vide où il n'y a rien quoi. Donc les choses sont, alors que là, quoi, les deux dernières années qui viennent de se passer avec le soleil qui était très actif avec plein de tâches, dès qu'on monte ça à l'enfant, il voit des tâches sur le soleil, ça l'intrigue quoi. Donc il s'est passé que le soleil est rentré dans un grand minimum d'activité pendant la période de Louis XIV, c'est incroyable, le roi soleil, comme si le soleil était descendu en France, quoi. Mais bon, attendez deux secondes, je vais en France, j'ai deux, trois affaires à régler, je reviens dans quelques dizaines d'années. Mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et à partir du début de 1700, le soleil s'est remis à osciller, comme vous le voyez. Et donc, le cycle de 11 ans, on a quand même des traces assez longtemps. Et on a même des traces que ce cycle avait continué pendant la période de minimum, parce que grâce au carottage glaciaire, et à la taille des arbres, des anneaux des arbres, on peut remonter dans le passé. Alors nos collègues japonais sont experts pour les anneaux des arbres. Ils ont des arbres qui ont des millénaires, mais aussi des souches mortes qui sont encore plus anciennes. Donc ils arrivent à faire des reconstructions très intéressantes. Et les carottages glaciaires, ben ça on le fait en Arctique, hein, et en Antarctique. Et on récupère des longs carottages qui peuvent servir à d'autres choses, mais aussi à recouvrir. Alors pourquoi, attendez, pourquoi la glace sur Terre et les anneaux des arbres me renseigne sur l'activité du soleil. Alors ça, petit cours d'héliosphère. Alors le soleil, comme la Terre, a un cocon magnétique autour de lui. Parce qu'en fait, il a un gros champ magnétique et ce cocon magnétique le protège de toutes les méchantes particules que veut nous envoyer la galaxie. Donc la galaxie nous bombarde de rayons cosmiques en permanence et ces rayons cosmiques veulent rentrer dans notre système solaire. Mais le soleil, comme il a un vent, et je vais y venir, et un champ magnétique, il nous sert de bouclier par rapport à ce rayon cosmique. Le rayon cosmique a plus ou moins tendance à rentrer en fonction de l'intensité de ce cocon magnétique. Et quand on est en minimum d'activité, ben, il y en a plus qui rentrent. Quand on est en maximum d'activité, il y en a moins qui rentrent. Donc il y a ce qu'on appelle une anticorrélation. C'est-à-dire que quand le soleil est au maximum, les rayons cosmiques sont au minimum. Quand le soleil est au minimum, les rayons cosmiques sont au maximum. Ça, c'est une anticorrélation. Corrélation, ça serait maximum ensemble, minimum ensemble. Donc on a ce truc-là, et grâce aux anticorrélations qu'on a sur ces phénomènes-là, le beryllium 9, le beryllium 10 capturent les perturbations liées au rayonnement cosmique qui créent des gerbes de particules dans le haut de l'atmosphère terrestre à peu près en 2 ans. Donc on a un petit décalage temporel de quelques années. Et pour les arbres, c'est plutôt 30 ans, le temps que ça soit retrouvé dans les arbres et tout ça. Je vous dis ça parce que pour faire la reconstruction historique, ça a besoin d'être calé. Donc là, il y a un autre exercice qui est très sympa, c'est essayer de prédire cette activité du soleil. Quand est-ce que le soleil va être actif la prochaine fois? Ah bon, ça, comme toujours, les prédictions, hein, n'engage que ceux qui y croient, hein, c'est pas facile à faire. Mais je vais vous montrer ici un site d'un collègue américain qui est très sympa, qui en 2007 prédisait que le cycle solaire serait au maximum en 2011 et serait plus intense que le cycle qu'on a eu dans le maximum, ils étaient autour des années 99-2000. Mais c'est complètement planté parce que aujourd'hui, maintenant, sa prédiction en 2012, c'est que c'est un tout petit cycle avec un maximum en 2014. Donc bon, il s'était quand même planté de 2 ans et demi et il avait prédit le cycle 2 fois trop haut. Bon, heureusement qu'on va pas en vacances avec lui, hein, comme prédicteur. Non, mais je veux dire, c'est une science balbutiante. On est en train de développer les modèles pour faire comme nos collègues météorologues, commencer à faire de la prédiction de l'activité solaire et donc de la météorologie spatiale pour pouvoir être capable. Et donc, on est en train de développer des gros codes pour faire ça. Bien sûr, on a du retard sur nos collègues météorologues, mais on bénéficie de leur avancée, puis nous, on les adapte aux étoiles. Voilà. Donc, on peut faire des simulations numériques, ça, je vous passe. Voilà, des simulations numériques que je peux faire avec mes équipes au service d'astrophysique. Vous voyez, on a des boucles magnétiques. Là, je vous représente les courants dans une étoile, simulation qui essaie de représenter le Soleil. Alors, est-ce qu'il veut bien passer ? Et voilà une tache solaire vue de côté et non pas vue de dessus. Alors, vous voyez une sorte de petite dépression, là. Vous voyez les lignes de champ magnétique ici, elles ont tendance à être verticales, mais là, elles sont inclinées, hein. Donc, ça fait un peu comme une sorte d'évasement pour les lignes de champ magnétique, puis elles retombent en dessous. Donc, c'est des tubes de champ magnétique, comme ça, qui viennent percer la surface, qui s'évasent, comme ça, qui viennent là. Et puis après, il y a des connexions d'une tache à l'autre, et ça crée des grandes boucles magnétiques chargées de plasma très chaud, qui émettent en rayon X et en haute énergie. Voilà. Une explosion, justement, d'une de ces régions actives. Vous voyez, ça émet de la lumière, et puis après, il y a plein de boucles qui se créent de reconnexions magnétiques, avec des trucs qui retombent sur la surface, et tout ça, et ça gonfle. Voilà ce qui se passe en permanence à la surface du Soleil. Voilà, dans le Soleil, en allium, en H-alpha ou en calcium, on voit des structures, on voit des filaments, parce que les protubérances, on voit très bien sur le côté, quand elles sont devant, ça fait des filaments noirs sur le Soleil. Et ça, bon, j'avais dit que s'il faisait beau, je venais avec mon télescope, mais j'aurais dû d'ailleurs. Enfin, peu importe. Et donc ici, voilà de nouveau une éruption. Vous voyez deux taches actives qui sont en train d'interagir l'une avec l'autre. Il y en a une qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre. Et vous voyez, ça crée des disruptions de courant, quoi, donc des énergies comme ça, et ça part dans l'espace. Donc, il est très, très puissant, le Soleil. Et là, c'est une visualisation faite par nos collègues de la NASA. Donc là, ce n'est pas du tout des simulations numériques comme je vous ai montré juste avant. C'est juste un film d'artiste. Mais ils essaient de vous schématiser comment le champ magnétique perce la surface du Soleil et crée des taches solaires. Et ces taches, par les mouvements, leur structure se pince. Paf ! Ça crée de la luminosité et ça envoie un nuage de matière dans l'espace. Ah, celui-là, il est bloqué. Dommage. Bon, pas grave. Je voulais vous dire que ça fait pas très longtemps qu'on a pu voir pour la première fois le Soleil à 360 degrés. Depuis le 7 février 2011, on a pu le voir. Jusqu'à présent, on avait toujours une face cachée du Soleil. Parce qu'on avait très peu de satellites qui étaient à l'opposé de la Terre par rapport à nous. Et depuis maintenant le lancement des satellites stéréo, A et B, on a pu avoir des situations où on avait trois points qui regardaient le Soleil. Et donc, on a pu reconstruire une image du Soleil cotemporelle, c'est-à-dire prise au même instant qui recouvrait la totalité du Soleil. Parce que jusqu'à présent, les cartes qui nous montraient le Soleil, elles avaient un décalage. Comme je vous l'ai dit, le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours en moyenne. Après 14 jours, on voit la face cachée. Donc on attend 14 jours. Toutes les deux semaines, on voit la face qui nous manque. Mais elle a un peu évolué, cette face. Donc on n'a pas vraiment une face. Ça fait seulement 4 ans qu'on peut le faire. Alors voilà une protubérance et voilà la taille de la Terre à côté. Ça vous donne une idée de comment on est petit, mais j'ai même un film qui va vraiment vous impressionner dans quelques minutes. Et donc le Soleil, comme je le disais, il a un vent et il a un champ magnétique. Alors son champ magnétique global, quand on regarde pas juste le champ magnétique local, mais vraiment la structure globale du champ magnétique, et ben ce champ magnétique, il est structuré, c'est comme un beau aimant, un dipôle. Mais quand il est intense, vous voyez, il devient très perturbé. Et vous voyez que ces jets de matière partent dans tous les sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. En fait, le Soleil, il a une pression à la surface, il est assez chaud, il fait 6000 degrés, et comme vous savez, les avions sont pressurisés, s'il n'était pas, on ne se passerait pas comme on est. Parce qu'en fait, la différence de pression, c'est une chose terrible. Hein, vous voyez bien, quand ils avaient fait, par exemple, pour le TGV, quand le TGV rentre dans les tunnels, ils ont été obligés de faire des études spéciales pour les fenêtres, parce qu'au début, les fenêtres des TGV explosaient, enfin, pas quand il y a des passagers qui faisaient les tests. Parce que la différence de pression qu'il y avait entre le TGV qui se déplace dans l'atmosphère normale, libre, avec des armes, machin, et puis d'un coup rentrer dans un tunnel qui est confiné, l'onde que ça envoyait sur la paroi du tunnel revenait et ça faisait vibrer les vitres et elle cassait. Donc vous êtes obligé de travailler là-dessus. Donc différence de pression, c'est très très important. Et donc le Soleil, il a une pression qui est celle qu'elle est. Sauf que le milieu interstellaire dans lequel il vit, c'est-à-dire la galaxie, le gaz qu'il y a autour de lui, assez loin, on parle de milliards de kilomètres, eh ben, il est très très faible. Il y a une particule par centimètre cube, peut-être. Ou deux. Je vous rappelle que le nombre d'Avogadro, dont vous avez tous entendu parler, c'est 6, 10 puissance 23, hein. Donc c'est, 23, c'est 20 milliards, c'est 18, c'est 100 000 milliards de milliards de particules par centimètre cube. Ok? Donc là, on n'en parle que d'une, à comparer à 100 000 milliards de milliards, hein. Donc, on voit que le vide du milieu interstellaire, c'est vraiment du vide, hein. Même les pompes à ultra-vide qu'on a dans nos laboratoires, elles arrivent à 10-12, peut-être les meilleures, les ultra-ultra-pompes, à 10-15. 10-15 par rapport au nombre d'Avogadro. Donc 10-15 fois 10-23, ça fait 10 puissance 8. Il reste encore 100 millions de particules dans les centimètres cubes. Et pourtant, on appelle ça l'ultra-ultra-vide. Hein. Donc vous voyez que la notion du vide est toute relative. Donc du coup, ben, comme il y a du vide autour du Soleil et que lui, il a une pression, eh ben il peut pas avoir une atmosphère statique, parce que son atmosphère, si on regardait quand elle s'étendait à l'infini et qu'elle bougeait pas, eh ben elle serait encore beaucoup trop chaude, avec une trop grosse pression sur le milieu interstellaire, et donc c'est pas possible. Elle ne peut pas s'appuyer, rien. Hein. Donc il faut que l'atmosphère du Soleil vienne se reconnecter naturellement au milieu interstellaire, et pour ça il faut qu'il soit dynamique, il faut qu'il y ait un vent. Donc le Soleil a un vent de particules continu. En permanence, il éjecte de la matière, il en éjecte, ça ne va rien vous dire, mais bon, une petite quantité tous les ans, hein, qui fait qu'il finit par perdre de la masse quand même au cours de son évolution. Et donc du coup, et en plus, la topologie du champ du Soleil change, la configuration du champ. Alors voilà, là vous voyez du vent en permanence, il y a du vent en permanence, et dedans il y a des tempêtes. Et regardez, il y a une tempête qui va nous venir dessus, vous allez voir ce qui arrive au détecteur. Qui sont en fait des objets qui détectent les électrons et les particules. Vous avez vu comme il est saturé ? Enfin, si vous êtes un astronaute, vous êtes dehors, vous prenez la tempête, vous avez pris une dose de radiation, Fukushima x 10, et là, je vais vous dire que vous êtes en bonne santé derrière. Hein. Donc, faut faire attention à ça, c'est quand même très important, on voit en permanence un vent, et dedans, il y a des tempêtes. Je remontre un peu, parce que c'est vraiment, hein, c'est des CDD, et là, vous voyez tous les pixels qui n'arrivent pas de récupérer des protons, des particules de haute énergie, vous n'avez pas envie d'observer. Hein. Et donc là maintenant, voilà cette coupe. Vous voyez ici, ça commence le Soleil, c'est sa configuration quand il est calme, en minimum d'activité, c'est ambiance tout de ballerine. Et après, vous allez voir, hein, ça s'appelle la ballerine skirt, on va arriver ambiance French Cancan, hein, bon, vous allez voir. Hein. On va bien lever les jambes et on va lever les choses, et donc ça commence à partir vraiment dans des trucs beaucoup moins sérieux que ballerina, voilà, donc on est vraiment en ambiance French Cancan. Donc vous imaginez, vous, pendant ce temps, le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours. Il a ce champ magnétique qui se change en permanence. Et il y a la Terre qui tourne. Bon, en 365 jours par rapport aux 28 jours du Soleil, ça change pas grand-chose. Donc la Terre est là, puis il y a le Soleil qui tourne sur lui-même, puis il y a les champs magnétiques qui bougent dans tous les sens, et la Terre se prend en permanence. Heureusement qu'on a un écran, hein, qui s'appelle la magnétosphère. Parce que, bonne nouvelle pour nous, la Terre est aussi un aimant. Il n'y a pas que le Soleil qui est un aimant. Donc la Terre, un aimant, c'est le même principe. Et donc on revient à la figure du début que je vous ai montrée, commencer un peu mieux à comprendre ce que je voulais vous expliquer, c'est que le Soleil, ben, c'est un objet intéressant qui fait plein de choses, que la convection, la turbulence, des ondes, du magnétisme, des éruptions, des courants électriques, et qui a un vent de particules, et dans ce vent des tempêtes, qui varient en cours de 11 ans. Et on a notre petite Terre ici, ben, qui doit vivre dans cet environnement spatial. Alors, comment elle le fait, en plus d'avoir des impacts. Alors là, je fais une petite aparté pour ceux que ça intéresse au niveau du climat. Il y a eu, vous savez, récemment, un nouveau rapport du GIEC qui est sorti par rapport à différents scénarios par rapport à notre consommation. Je pense que c'est tout à fait à propos ici, dans cette fête, lutte ouvrière, c'est notre mode de consommation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on fait un certain scénario où on se limite à notre consommation, eh ben, la température moyenne est prédite par ces modèles, hein, bon, ces modèles dépendants, elle pourrait redescendre. Donc, on pourrait arriver à contrôler ça. Mais si on continue comme on est parti, ça risque de chauffer. Alors là, je vous montre des cartes, justement. Souvent, vous entendez parler à la télé de température moyenne. Ça ne veut pas dire grand-chose, la température moyenne. Non, si on doit vraiment parler sérieusement de réchauffement climatique, il vaut mieux parler par zone, parce qu'il y a des endroits où ça va se réchauffer, et il y a des endroits où ça va se refroidir. Bon, globalement, tout le monde va se réchauffer, mais il y a quand même, vous voyez, des endroits ici, si on regarde les différences, ça bouge, c'est pas complètement homogène. Tout le monde ne prend pas la même chose. Ici, on voit qu'il y a des zones où pas forcément, ça chauffe pas forcément. Mais bon, globalement, il peut y avoir des zones où ça chauffe très. Ça, c'est pour le cas du scénario 5.4, donc c'est celui-là. C'est quand même un des scénarios. Si je crois que si on arrête de faire comme on fait maintenant, stabilisation, on ne consomme pas plus que ce qu'on fait, on voit qu'on a déjà une bonne augmentation. Donc il faut quand même faire un peu un effort. Et ça, c'est la pluie, les changements des précipitations. Ça, c'est les précipitations. Si on essaie de faire un modèle où on essaie de calmer nos compositions, nos émissions et notre pollution, ça, c'est le cas si on ne fait rien, qu'on continue à toute berzingue, à augmenter, hein, pas à stationner. Vous voyez qu'on commence à avoir des zones désertiques. Certains endroits vont devenir désertiques, vont avoir moins d'eau qu'avant, et d'autres, ils vont se prendre des monsoons qui vont durer l'année entière, pratiquement. Hein. Donc, vous voyez que c'est quand même assez important. Et je voulais montrer cette courbe ici sur l'impact du soleil. Alors là, c'est si on prend les aérosols, les volcans, la variabilité solaire. Bon, il y a plusieurs scénarios. Ça, c'est si on prend que le soleil seulement avec un peu de volcanisme. On voit qu'il y a une contribution sur les dernières années qui, du soleil, je vous dis, de l'ordre de 20-25% maximum. Et le reste, c'est... merci. Le reste, c'est un... Donc voilà, une image de nouveau vue d'artiste où on a des nuages magnétiques, ces fameuses tempêtes qui s'échappent, avec le positionnement des planètes qui change forcément au cours de l'année, au cours des orbites des planètes, et qui s'échappe et qui va aller aux confins de notre système solaire, là où il y a les deux sondes Voyager qui nous intéressent là-dessus. Je finis bientôt. Voilà. D'accord, bon, j'arrête dans 5-10 minutes. Et donc, je suis presque à la fin, on arrive aux confins de... Et donc, Voyager, les sondes Voyager 1 et 2, nous ont renseigné sur cette zone. Et en plus, ils ne sont pas partis au même endroit, donc ils nous ont renseigné sur deux endroits. Alors là, c'est la comète. Et ici, vous avez une idée de ce que ça peut être, l'impact du vent solaire. Il y a un nuage qui arrive et il force à la recombinaison du champ magnétique, à se reformer au champ magnétique. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Des belles aurores boréales. En plus de problèmes de communication, de téléphone, de GPS, et on obtient des aurores boréales. Donc voilà, vu d'en haut, si ça marche. Non, ça ne marche pas. Alors voilà ce film que je voulais vous montrer. Voilà un nuage magnétique qui part. La Terre est à 215 rayons solaires de distance. 150 millions de kilomètres, ça correspond à 215 fois le rayon du Soleil. D'accord ? Donc vous voyez ici, on a plus ou moins 50 rayons solaires. Et vous voyez, ce nuage magnétique part. Et on arrive à 215 rayons solaires près de la Terre. Alors on va zoomer. Et on va zoomer pour essayer de vous retrouver notre petite planète Terre. Vous avez vu comme on a dû zoomer pour voir la planète Terre. Et voilà maintenant la Terre qui se prend cet énorme nuage magnétique qui est parti du Soleil. Parce qu'il a 215, il s'est enflé, il fait presque 100 rayons de taille. Énorme nuage magnétique, plein de courants, de particules qui nous rentrent dedans. Voilà. Alors cette activité varie, et voilà typiquement le principe, j'ai déjà expliqué. Les aurores boréales, vous allez en voir ici, c'est un ovale auroral comme on dit. Et selon comment le champ magnétique de la Terre est positionné, parce qu'il faut savoir que le champ magnétique de la Terre se renverse lui aussi. Mais alors, il se renverse tous les 250 000 ans en moyenne, sauf qu'il ne l'a pas fait depuis 780 000 ans. Mais bon, le champ magnétique de la Terre est moins régulier que celui du Soleil. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est l'hémisphère sud magnétique, c'est le pôle sud magnétique qui est à l'hémisphère nord. Okay ? Parce que les boussoles sont aimantées nord, et donc elles sont attirées par le pôle sud. Le pôle sud du Soleil, du champ magnétique de la Terre. Donc, le pôle nord géographique a pas loin de lui le pôle sud magnétique. D'accord ? Essayez de réfléchir. Et voilà, pour dire le tout. Donc, c'est important, je vous le montre ici, pôle sud, pôle nord, mais pôle sud géographique. Et il arrive que ce champ magnétique se renverse de la Terre. Mais parfois, il y a des excursions, parfois ça échoue. Donc, la dernière excursion, et non pas renversement, a lieu il y a eu à peu près 40 000 ans. Le champ magnétique de la Terre a essayé de basculer, puis finalement il a dit « Oh non, ça ne me plaît pas ici, je reviens où j'étais ». Voilà, je plaisante. Mais en particulier, ce qui se passe, c'est que forcément, si on avait des boussoles, là, on serait un peu déboussolé, c'est le cas de le dire. Hein. Et les animaux aussi, hein, parce que vous savez qu'il y a certains mammifères marins ou des oiseaux qui ont une espèce de mini-électro-aimant auprès de leur cerveau qui se dirigent et ils migrent grâce aux lignes de champ magnétique. Hein. Aux lignes telluriques ou magnétiques et le sang. Alors là, c'est une expérience de physicien expérimentaliste que je ne suis pas, parce que je suis un théoricien qui fait des simulations numériques, Mais voilà ce que j'ai fait. J'étais au Japon parce que j'ai des collègues japonais, j'y vais souvent, ils m'y invitent. Je suis un peu prof visiteur à l'université de Kyoto et à Tokyo et à l'observatoire de Tokyo. Et j'avais là-bas, je vais y aller en 2011, juste au moment de Fukushima et du tsunami. Donc j'ai annulé, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu reviennes, Sacha. Et donc je suis revenu. Et bien sûr, les compteurs Geiger étaient en discount là-bas. On pouvait acheter des compteurs Geiger pour que dalle. Bon, bien sûr, j'en ai acheté un. Donc j'ai acheté un compteur Geiger et j'ai fait cette expérience très intéressante de compter le taux de radiation que je me prends quand j'ai fait mon vol retour Osaka-Paris. Alors vous me voyez ici au nord de Moscou dans la Sibérie dans mon petit avion, hein, avec mon compteur Geiger ici qui indique Dangerous Radiation Background. Donc je suis en train de me faire bombarder de rayonnement et je suis dans mon avion, tranquille. Et c'est pour ça qu'ils ont des compteurs Sievert dans les avions, hein. Vous savez que des avions ont des détecteurs de radiation pour deux raisons. Un, pour pouvoir... Enfin, la première, c'était pour faire de l'espionnage en cas où il y avait des essais. Le deuxième, c'était... Parce qu'après, ils se sont dit, bon, on va leur donner une raison plus politiquement correcte. C'est pour savoir combien de doses prend notre personnel. Hein. Et donc, moi, j'ai une collègue qui travaille à Air France. Elle se prend 4 millisieverts par an parce qu'elle fait des vols internationaux. Et plus vous passez par les pôles, alors si vous faites l'Afrique, ça va, parce que vous êtes plutôt là où le champ magnétique est fort. Mais si vous faites les États-Unis ou le Japon, vous passez pas mal par les cornets polaires, et là vous prenez pas mal de doses. Et donc ici, vous avez 3,4 millisieverts par an. Alors vous allez me dire, un microsievert. Mais attendez, ça fait combien? Alors je vous rassure, hein, c'est 20 millisieverts la dose officielle en France, et la norme européenne, c'est 40. En France, on a divisé la norme par deux pour être plus sûr. Et donc, vous voyez ici, je vole à 920 km/h, je suis à 11 500 mètres d'altitude, fait moins 60 degrés. Je viens de faire 9000 km, je crois, c'est ça, je suis un peu fatigué. Et voilà, donc c'est pour vous dire que c'est la réalité, les particules qui viennent de l'espace et qui sont à haute atmosphère terrestre, il y en a bien. Et si, il y a quelqu'un qui a posté sur Internet, qui a fait la même expérience que moi, et lui, il voit 15 sur son truc, moi je vois 3, et lui, il voit 15. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il a regardé, il y avait une tempête qui avait tapé la Terre. Donc, ça marche. Donc, parfois, on détourne des avions pour ça. Alors, pour finir, il n'y a pas que la Terre qui a des aurores boréales. Voilà des aurores boréales sur Jupiter et sur Saturne. L'avantage de la physique, c'est que ça permet d'expliquer des phénomènes, non pas qu'à un endroit particulier, mais de façon plus universelle. Vous savez qu'il y a pas mal de planètes dans notre système solaire, mais qu'il y en a une qui n'en est plus une, c'est Pluton. Hein, c'est une planète naine. Voilà d'autres. Pourquoi c'est une planète naine? Parce qu'on a découvert des objets dans la ceinture de Kuiper, qui est cette zone un peu au-delà de l'orbite de Pluton, de petits corps. Et si les corps font plus de 600 km, ils sont sphériques, et on commence à considérer que c'est des planètes naines. Et s'ils ont évacué leur orbite, ce sont des planètes. Pluton n'a pas encore vraiment complètement évacué son orbite, et donc c'est pour ça que ça a été mis comme une planète naine. Donc on a déjà découvert d'autres planètes, mais elles ont souvent des orbites très excentriques et on pense que c'est lié à la formation du système solaire et de ce qu'on appelle la théorie de la grande virée de bord où Jupiter et Saturne se rapprochent du Soleil au début de la formation du système solaire et repartent en arrière pour se positionner où ils sont. Et en faisant ça, ils ont fait un jeu de billard, ils ont envoyé plein de planètes, petites planètes partout. Voilà la dernière image du satellite de notre système solaire fait par Jupiter, c'est l'image de notre système solaire pris à la plus longue distance, où on voit le Soleil, les planètes autour, et puis hop, les différentes planètes de notre système solaire, avec le fond étoilé. Donc, l'héliosphère, qui est ce cocon magnétique, il faut savoir que notre Soleil est au bord d'un nuage, et il est en train de sortir d'un nuage pour aller dans un autre nuage. Donc, on est en train de se déplacer dans notre bras galactique pour aller, pour changer. Donc, on se déplace dans l'espace, comme je vous le disais. Voilà les étoiles à 10 années-lumière, proche du Soleil, donc Soleil, ici vers le centre galactique, Proxima du Centaure, qui est la plus proche, avec Alpha du Centaure, l'étoile de Barnard, ici, voilà, qui sont les étoiles Sirius. Là, je vais vous montrer, c'est la continuité qu'il y a entre les étoiles de type solaire, les naines rouges, les naines brunes, qui sont des étoiles ratées, mais qui sont un peu mieux que des planètes, et les planètes. Donc, il y a un continuum d'objets, des étoiles de faible masse vers les planètes géantes. Et là, je voulais vous montrer un peu l'échelle respective des étoiles et des planètes. Ça, c'est Mercure, la Terre. À chaque fois, à gauche, on reprend l'objet de droite. Donc, la Terre est ici, vous voyez, par rapport à Jupiter. Jupiter est là, on le retrouve ici. Vous voyez, par rapport à la taille du Soleil, qui est la troisième. Ça, c'est Jupiter, ça, c'est le Soleil. On part, ça, c'est Bételgeuse, on la met ici. On voit là, on a ce VV Canalis, et hop, voilà la plus grande. Donc vous avez vu, celle-là, c'est celle-là, et celle-là, c'est celle-là. Donc on a une augmentation des tailles. Oui, il faut que j'arrête. Je vais arrêter pour que vous puissiez poser des questions. Donc voilà l'impact du vent sur une planète. Et je voulais quand même finir sur mon image de Tatooine en disant que quand même, il y avait des systèmes binaires. Et donc on peut se retrouver dans des systèmes intéressants. Les exoplanètes, ce n'est pas simplement des planètes autour d'une étoile, ça peut être plusieurs planètes autour de plusieurs étoiles. Et il y a deux types de configurations quand on est dans un système binaire. On peut soit avoir des planètes qui sont autour d'une des deux étoiles, mais elles ne peuvent pas aller très très loin, ou alors des planètes qui orbitent autour des deux. Et au jour d'aujourd'hui, pour savoir... Voilà à peu près 2000 planètes, voilà le nombre de systèmes multiplanétaires qu'on a trouvés. Et actuellement, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Et on cherche des planètes dans cette zone, c'est-à-dire pas trop loin des étoiles, ni trop proche, pour pouvoir avoir de l'eau liquide et pouvoir développer de la vie. Et je crois que je vais vous finir sur 186F, qui est a priori la première planète tellurique, ça veut dire avec une croûte, qui est dans la zone d'habitabilité de sa planète. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sacha, pour cet exposé enthousiasmant. Alors, le petit souci, c'est que c'est tellement enthousiasmant qu'on n'a plus qu'un quart d'heure, donc on va quand même prendre des questions, mais il faut qu'on se dépêche.
Je voudrais savoir la zone où se font les réactions thermonucléaires dans le Soleil, à combien de distance du centre elles se font et sur quelle épaisseur?
Alors le cœur nucléaire du Soleil fait à peu près 25% du rayon et contient à peu près 50% de la masse. Donc ça se fait de zéro, le centre, à 25% en rayon. Voilà, donc 25% d'un quart de 700 000, ça fait à peu près 170 quoi, de l'angle. 180 000 km.
Alors, moi, j'ai deux questions. La première, en fait, c'est le Soleil, en fait, est-ce qu'il a que deux pôles magnétiques ou, en fait, bien plus que ça, vu les simulations que vous avez montrées?
Alors, très bonne question, je réponds tout de suite. Plus il a, ça dépend de sa phase. Quand il est en minimum d'activité, comme je le montrais avec cette image du vent solaire, quand il est en minimum d'activité, il a tendance à en avoir principalement que... Excusez-moi, c'est un peu long pour venir. Il a principalement tendance à en avoir que deux. Et voilà, ici, tu vois, il en a deux, principalement, nord-sud ou sud-nord. Quand il est actif, tu vois, il en a beaucoup. Il y a plein de directions, parce qu'il y a une topologie magnétique beaucoup plus complexe. Et l'autre question ?
Et la deuxième question, en fait, c'est si sur Terre, donc, il y a un renversement du pôle magnétique, enfin que ça repasse nord-sud, quel pourrait être l'impact, en fait, sur nous, quoi, en fait, tout
simplement. Mais je pense qu'il sera au moment où le cocon magnétique de la Terre sera minimal, ça sera très. Il vaut mieux pas que le Soleil soit en grand maximum d'activité à ce moment-là. Mais pour savoir, le problème, c'est que ça sera forcément le cas. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le renversement du pôle terrestre se met à peu près 7000 ans pour se faire. Donc ça ne va pas se faire instantanément. Donc le basculement du champ magnétique terrestre va prendre de l'ordre de 7000 ans à se faire. Entre le début et la fin, ça prend 7000 ans. Le basculement lui-même, il prend quelques milliers d'années. Donc ça veut dire que pendant cette période de basculement, le pôle va être dirigé différemment. Les ovales auroraux vont se déplacer, vont être à différentes latitudes et compagnie. Et donc là, forcément, comme le cycle de 11 ans est beaucoup plus rapide que l'échelle de renversement du pôle terrestre, on va avoir des soucis. Et donc il y a un film là-dessus qui s'appelle The Core, où ils ont fait un film de science-fiction là-dessus, où effectivement la dynamo terrestre à l'intérieur s'arrête et ils décident de construire un vaisseau qui rentre à l'intérieur des croûtes terrestres pour envoyer des bombes atomiques pour relancer la rotation de la Terre pour régénérer le courant électrique. Donc je te conseille de chercher sur Internet le film The Core, le cœur, quoi, en anglais, Core, C-O-R-E, qui parle de ce scénario-là. Bon, eux, c'est... Mais bien évidemment, tu commences à avoir des trous, donc tu vas avoir plus de particules ionisantes et des rayonnements ionisants qui vont venir impacter la surface. Il va y avoir des perturbations très fortes du champ magnétique terrestre, qui peut avoir des problèmes sur les pacemakers, qui ont des problèmes sur les animaux, comme je l'ai dit. Donc ça va être non négligeable comme conséquence. Ce qui rassure un petit peu, c'est que le rayonnement ultraviolet du Soleil ionise l'atmosphère et l'ionosphère terrestre peut, quand il n'y a pas une grande magnétosphère créée par un champ magnétique qu'on appelle intrinsèque, c'est-à-dire interne, quoi, l'ionosphère terrestre va quand même recréer une petite magnétosphère qu'on appelle induite, celle-ci, et pas intrinsèque. Et donc, nous, on fait des calculs dans mon laboratoire. C'est une des choses qu'on a commencé à développer, d'interaction étoile-planète, où on s'amuse à jouer sur la topologie du champ magnétique de la planète pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on se rend compte qu'il y a des configurations plus favorables que d'autres. Et on se rend compte que quand on l'enlève, l'atmosphère arrive à en recréer une beaucoup moins intense. Donc, c'est pas comme si on perdrait totalement notre protection, mais elle sera beaucoup moins efficace. Donc, ça sera potentiellement très dangereux.
On a autre question ?
Ouais.
Excusez-moi, j'ai une question aussi. Est-ce qu'il existe des satellites naturels avec un champ magnétique ?
Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, celui dont on est sûr qu'il a un champ magnétique, c'est Ganymède, parce qu'on peut faire un truc simple, tu vois. Quand tu as un champ magnétique comme Jupiter, qui a un champ magnétique assez étendu, je vais te montrer la taille de la magnétosphère de Jupiter. La magnétosphère de Jupiter, son cocon magnétique autour de Jupiter, est tellement gros que tu peux y mettre le Soleil dedans. Et je vais te montrer une image. Donc, quand tu as un champ magnétique comme Jupiter, qui est très étendu, ici c'est la taille du Soleil relative, donc vous voyez que la magnétosphère de Jupiter est très grande. Alors ici, je n'ai pas commenté cette figure, mais vous voyez, l'axe en rouge, c'est l'axe du champ magnétique, et l'axe en blanc, c'est la rotation de l'étoile, de la planète. Donc on voit que pour Jupiter, ils sont assez alignés, pour Saturne, ils sont assez alignés. Mais regardez pour Uranus et Neptune, ils sont presque perpendiculaires. Alors, deux choses très intéressantes. Uranus est une planète qui se roule dessus. Elle fait le tour du Soleil en se roulant dessus. C'est déjà marrant. Et Uranus et Neptune est une planète qui a un angle à peu près normal de rotation, donc elle tombe bien comme ça, mais elle a son champ magnétique qui est à l'équateur. Donc si vous aviez une boussole, ça vous indiquerait l'équateur sur Neptune. Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que sur Neptune, c'est en train de basculer ou est-ce que c'est un état permanent. Donc ça fait partie des trucs qu'on doit regarder. Alors, autour de Jupiter, tu as les lunes joviennes, et ici tu as deux choses qui se passent. Io est une planète volcanique qui est tellement proche de Jupiter qu'elle a une tectonique des plaques, un volcanisme très important. Et comme sa force de gravité n'est pas suffisante, la vitesse d'éjection de ces volcans est suffisante pour satelliser la lave. Sur Terre, les éruptions font peut-être 1 km par seconde. Et comme il faut 11,2 km pour s'échapper de la Terre, la lave retombe toujours. Elle peut aller loin, la cendre, elle retombe. Mais sur Io, c'est pas le cas, elle érupte et puis ça sort et ça va sur la trajectoire de la planète. Alors bien sûr, c'est une vue d'artiste, c'est pas aussi dense que ça, mais il y a de la matière. Alors pour Io, ça marche pas, tu vois, je le mets ici. Io, c'est 13 milligauss, ou bon, peu importe, c'est une mesure, c'est le Tesla, sinon c'est très petit. On pense que c'est induit. Callisto et Europa, c'est induit. Quand tu as un corps qui se bat dans un champ magnétique, comme il se déplace et qu'il est conducteur, tu induis des courants. Donc tu peux induire du champ magnétique à l'intérieur des satellites naturels. Mais pour Ganymède, on pense que le champ induit par Jupiter à 15 rayons jupitériens, qui est la position du satellite Ganymède, devrait, et le calcul montre qu'il devrait être de 1,2 milligauss, peu importe l'unité, et on mesure 7,5 milligauss grâce à Cassini. Et donc on voit que forcément dans ce cas-là, il doit y avoir du magnétisme. Alors ce magnétisme, comment il peut être fait ? Il peut être fait, c'est pas forcément comme dans des plasmas très chauds, comme sur le Soleil, ça peut être grâce à un océan d'eau salée. Il peut y avoir la conduction et créer du champ magnétique.
Voilà. Autre question ? N'hésitez pas, hein. On a encore un peu de temps quand même. Oui.
Oui, vous nous avez montré que tout à l'heure les aurores boréales, c'est un phénomène qui était dû à une modification du champ magnétique. En tout cas localement au pôle, et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on les voit comme ça, qu'il y a ce changement de couleur
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les particules qui précipitent le long des lignes de champ magnétique de la Terre, tu vois, les particules, elles sont en fait piégées souvent dans la queue. Il y a deux endroits par lesquels elles peuvent rentrer, mais elles pourraient rentrer par les cornées polaires, parce que le champ magnétique diverge là, donc... peuvent perturber et rentrer là, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles sont piégées dans la queue de la magnétosphère, parce qu'en fait, la magnétosphère, c'est un peu comme des chevaux au vent quand tu es sur une moto, tu as les cheveux longs, ils sont tirés vers l'arrière. Donc en fait, le cocon magnétique de la Terre, normalement, quand le champ magnétique de la Terre est au repos et qu'il n'est pas perturbé par un vent de plasma du Soleil, il fait à peu près 10 rayons, 7-8 rayons terrestres de chaque côté. Tu as deux grosses oreilles, si tu veux, magnétiques de chaque côté comme ça. Mais quand il y a un vent de particules du Soleil, celui de devant qui prend le vent solaire, il est comprimé, et celui de derrière, elle est étirée. Tu vois. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que dans la partie étirée qu'on appelle la queue de la magnétosphère, il y a plein de particules, et quand tu as une autre tempête qui arrive, ça perturbe les particules qui étaient piégées, parce qu'on a la ceinture de Van Allen et d'autres ceintures, on a des ceintures de particules de radiation autour de la Terre, elles sont perturbées par ces nuages magnétiques qui arrivent, et elles précipitent. Quand elles précipitent, parce qu'elles sont chargées, elles ont un mouvement de giration le long des lignes de champ magnétique comme ça, elles accélèrent, elles émettent de la lumière, et cette lumière vient impacter les atomes d'oxygène de l'atmosphère, qui eux, en se désexcitant, réémettent une lumière, et principalement la lumière verte. Donc c'est par un processus, tu vois, un peu complexe, mais c'est les particules piégées dans l'atmosphère terrestre qui, en précipitant et en tournant, génèrent de la lumière, cette lumière vient impacter les atomes d'oxygène de l'atmosphère qui eux émettent dans le vert. Et donc, du coup, ça donne ces magnifiques drapées vertes, parce que ce que ça fait, ça c'est tous les atomes d'oxygène qui sont près des lignes de champ magnétique, où il y a des particules qui viennent exciter toute cette atmosphère-là, qui émettent cette lumière. C'est pour ça que tu vois des drapures comme ça, et que ça change beaucoup, parce que le champ magnétique est pas constant, permanent et figé, quoi. Tu vois, il bouge. Plus de questions ? Bon, ben écoutez, merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Sacha. Nous reprenons les prochaines conférences ici, donc à 16h. Alors, je crois qu'à 16h, c'est Étienne Klein, si je ne me trompe pas. Donc, il viendra nous parler des grandes questions sur l'univers. Tout un programme. Donc, il y a l'allocution de Nathalie qui est dans quelques minutes sur le grand podium là-bas.